franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, les effets de la méditation sur le cerveau avec Wolf Singer et Mathieu Ricard.
Ben, c'est certainement utile d'entraîner la possibilité de se concentrer hein, dans tous les domaines de la vie, parce que l'apprentissage, ça dépend de l'attention, de la possibilité de se concentrer. Donc, à l'école, à l'université, dans la journée des travailleurs, ça serait bien d'interpeller des moments de calme, de concentration. C'est pour ça que oui.
On entendait parler des ondes gamma dans l'extrait du documentaire. Alors ça, c'est quelque chose qui vous concerne de très près, ces ondes.
Oui, ça me concerne. On les a découvertes il y a 30 ans presque déjà. Maintenant.
C'est quoi exactement les ondes gamma
C'est des fréquences d'oscillation de l'activité cérébrale.
Ouais.
On peut enregistrer ça avec des électrodes, soit chez l'homme d'électroencéphalographie ou magnétoencéphalographie, et chez l'animal évidemment avec des électrodes intracrâniennes.
Donc c'est très précieux de les localiser pour pouvoir justement voir comment fonctionne le cerveau.
Oui, il paraît que c'est un signal qui est produit par des réseaux neuronaux quand ils s'engagent dans des tâches spécifiques, surtout quand il y a l'attention dirigée vers cette tâche.
Ouais.
Là, les neurones s'engagent dans un rythme de à peu près 40 Hz. Et maintenant, c'est devenu un rythme très important dans les neurosciences. Et surtout, parce que le cerveau est capable de synchroniser ces rythmes à distance. Par exemple, les deux hémisphères, ils peuvent s'engager dans un rythme de 40 Hz. Et au fur et à mesure que les deux hémisphères commencent à travailler ensemble, il y a une synchronisation entre les deux hémisphères. Donc, et ça, c'est un rythme que Richie Davidson a découvert d'être augmenté pendant la méditation.
Oui. Et donc les ondes gamma de Mathieu Ricard réagissent autrement.
Il est expert en les contrôlant.
Ouais.
Il peut les augmenter, il peut les décroître, tandis que des gens normaux, des gens non pratiquants, ils les produisent, mais ils savent pas quand.
Ouais. Mardi, les ados transgenres Serge Ephèse, Alexei et Lise Barnéou.
Beaucoup de solitude, beaucoup de souffrance, beaucoup de rejet. C'est quand même des jeunes et des enfants pour qui sont surmultipliés les tentatives de suicide, les scarifications, les attaques d'eux-mêmes, les parcours qui se marginalisent, etc.
Et même chez des enfants soutenus par leurs parents, parce qu'on voit justement Lucas qui s'est automutilé alors qu'il a pourtant des parents qui le...
C'est aussi parce qu'au début, il y a une intériorisation de ce mal-être avant de franchir ce cap d'en parler, justement, et de trouver du soutien extérieur. On se retrouve d'abord confronté à soi-même. Il y a déjà toute cette phase de compréhension, qui on est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça nous arrive à nous, pourquoi on est comme ça et pas comme tout le monde. Et ensuite, de faire ce premier pas vers l'extérieur, de savoir est-ce que on va être écouté, est-ce qu'on va être soutenu, ou est-ce qu'au contraire, on va être rejeté. C'est plein de questions qui font qu'on n'y va pas tout de suite. Il y a un délai d'attente et pendant lequel il va y avoir toute cette surprise.
Vous dites y aller, ça veut dire quoi au fond? Y aller tout de suite,
hein? Y aller, franchir ce pas. Enfin, moi, je sais que
franchir ce pas de
faire un coming out, d'en parler. Parce
qu'au
final, on sait que c'est ce qu'on voit, que tout seul et avant la majorité, ou du moins en France, on va pas vraiment très loin. Effectivement, on n'a pas accès comme dans d'autres pays où c'est un petit peu plus avancé l'accompagnement des enfants transgenres, l'accès à une hormonothérapie ou voir un psychiatre, etc.
Ouais.
Tout ça, on le fera pas tout seul. Il faut qu'il y ait les parents derrière. Et donc, il faudra forcément passer par cette étape de communication et de coming out, comme on dit. Et cette étape-là, avant qu'elle soit franchie, il y a plein de stades qui se passent.
Lise Barnéou, vous pardonnez-moi la naïveté de ma question, mais à partir de quand, au fond, on devient transgenre, alors?
Alors ça, c'est peut-être une question qu'il faut plutôt poser à mon voisin, mais moi je dirais qu'on devient transgenre à partir du moment où on s'assume et où on fait ce passage. À moins que finalement on ait transgenre dès le début,
je pense pas vraiment qu'on le devienne. C'est pas une phase, on est là puis on devient quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on est. Après, on va le ressentir plus jeune ou moins jeune.
Mercredi, ces émotions qui nous gouvernent, avec Philippe Jamais.
C'est tellement triste de voir qu'il y a tant de malentendus, que tant de gens, justement, parce que ils sont très émotifs, pleins de sensibilité, bien c'est ceux qui sont le plus en attente, ouais, le plus en appétit, le plus qui vont être le plus facilement déçus. Et une fois déçus, on va voir se retourner ce qui est cette attente en une destruction. Cette destructivité, elle va de faire de la gueule jusqu'à se tuer, en passant par tous les intermédiaires, où on va se fermer vis-à-vis de l'autre avec la même force qui nous faisait aller vers lui parce qu'on a été déçus, parce qu'il y a eu un malentendu et qui va nous pousser à nous détruire.
Oui.
Et que ça, toute la vie sociale en est imprégnée.
Donc c'est un spectre extrêmement large. On pourrait dire au fond d'une folie ordinaire qui peut tous nous concerner à un moment de nos vies.
Oui, tout à fait. Je sais que nos siècles actuels nous en montrent pas mal. Oui, l'homme est capable de faire des folies sans être le moins du monde fou, sans avoir la moindre maladie mentale. Il n'y a pas une frontière nette. Voilà. C'est qu'à un moment donné, on est sous l'emprise d'émotions qu'on pense qu'on a choisies alors qu'on les subit.
Oui, alors c'est ça. Moi, je trouve que vous êtes très déculpabilisant, au fond, très bienveillant d'ailleurs dans cet ouvrage par rapport à notre rapport à la folie et à la façon dont parfois on peut sortir des rails au point de détruire ou de nous détruire. Vous dites à quel point nous sommes quoi, finalement, pas responsables vraiment de ce qui nous arrive.
Mais voilà, la grande question, c'est que nous n'avons rien choisi de ce que nous sommes. Ça, il faut l'admettre.
Mais c'est pas un peu dangereux, ça, finalement,
c'est pour ça qu'on a tellement peur
de livrer un tel message.
Ça peut être dangereux, voilà. C'est pour ça qu'on a peur et qu'on dit non, c'est pas nous, c'est les fous, tout ça qui font ça. Si vous n'avez rien choisi de ce que vous êtes, vous êtes le produit de la rencontre d'un génome que vous n'avez pas choisi, que je sache, et d'un environnement. C'est pas vous qui avez décidé de naître, c'est pas vous qui avez décidé de vos parents, de votre culture, de tout ça. Mais faites extraordinaire. Par cette capacité de vous regarder, de faire de vous un objet d'observation, ce qu'on appelle la réflexivité, capacité de dire « qui c'est moi ? Qui suis-je moi vraiment ?» Ça, c'est propre à l'être humain. Eh bien, ça va faire que s'ouvre une vraie capacité de choix. Seulement ce choix, l'expérience notamment de la psychiatrie, mais pas seulement, de la vie quotidienne, il n'y a pas de frontière étanche entre les deux, nous montre que ce choix, il va massivement dépendre de nos émotions, et notamment de ces deux émotions fondamentales qui sont à la base de la vie aussi bien chez l'animal que chez nous, qui sont la confiance ou la peur. Et si vous avez peur, eh bien vous allez être obligé d'avoir une réaction de défense en rompant ce qui fait la vie, c'est-à-dire le lien, en vous repliant, en vous fermant. Et c'est ce qu'on va voir, des gens qui attendaient tellement et parce qu'ils ont été déçus, ils se protègent de leur déception en renonçant eux-mêmes à désirer quoi que ce soit. C'est cet enfermement, si vous voulez, qui est caricatural dans la psychiatrie, mais qui nous concerne tous à tout moment.
Jeudi, Santé publique, le fossé se creuse entre les connaissances des scientifiques et celles de la population. Didier Raoult.
Parce que les choses vont de plus en plus vite, la distance qu'il y a entre la connaissance que nous avons maintenant, la population, et pas que la population, les décideurs, etc., est en train de s'agrandir. C'est un fossé qui est en train de s'agrandir. Mmh. Et en particulier, on a une vision de la complexification des choses et qui se fait jour. Il y a une explosion dans le 21e siècle de technologies qui bouleverse notre compréhension des choses. Et on voit, je vous disais tout à l'heure, pour des choses qui sont très très banales, on parlait des infections urinaires, que les infections urinaires, dans plus de 25% des cas, soient le reflet d'épidémies chez les poulets, et quelque chose que tout le monde devrait savoir, qu'on sait depuis un certain temps, et vous voyez qu'il passe complètement inaperçu. On n'a même pas l'impression que les infections urinaires soient une épidémie.
Ouais. On a l'impression c'est le cas.
Et
c'est lié au poulet.
Beaucoup au poulet, oui.
Infection urinaire et poulet, mais comment on attrape ça alors exactement?
Il y a ce qu'on appelle nous des épizoos aussi, c'est-à-dire qu'il y a des épidémies dans les élevages de poulets, parce qu'il n'y a pas que les humains qui ont une hyper-urbanisation et une mondialisation, les poulets aussi, les porcs aussi. Donc il y a des milliers de poulets qui ont des contacts sociaux extrêmement proches,
rapprochés.
Qui reçoivent de temps en temps des antibiotiques, même si théoriquement on n'a plus le droit de leur donner des antibiotiques pour les faire grossir. Avant on les faisait grossir avec des antibiotiques, maintenant on leur donne des antibiotiques pour éviter théoriquement ces épidémies. Donc il y a une sélection très 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 importante de bactéries éventuellement résistantes. Et puis nous mangeons les poulets, et quand on mange les poulets, on touche le poulet, et si dans la chair de poulet il y a ces microbes, eh bien en les mettant à la bouche, les gens qui vont être susceptibles vont faire ces infections
urinaires. Et là c'est un vrai problème de santé.
Ah oui, là ça tue.
Et on n'en parle jamais.
Ça tue des milliers de gens quand même, hein, infections urinaires, HHA coli, ça tue.
Donc c'est ce que vous nous dites. Finalement, on ne parle pas des vrais problèmes, on ne parle pas des vraies maladies.
On parle pas des vraies maladies, et en particulier parce que parmi les gens qui sont ou qui devraient être les médiateurs, ils sont ignorants de ce qui se passe, parce que les choses vont très vite et que je vous dis, le fossé qui est en train de se creuser entre la connaissance et l'action est quelque chose la connaissance générale, la connaissance de pointe et la connaissance générale est en train de s'agrandir à une vitesse phénoménale.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.